radio, c'est vraiment pas la télé. Libre Radio, la radio de contre-information. www.libradio.org.
It's been Washington's biggest mystery since Watergate.
We have to pass the bill so that you can find out what is in it.
Therefore, TV has become a weapon of mass persuasion. In order to take back our minds and our lives, we must first unplug the signal. Turn off your televisions. Cancel your cable and satellite subscriptions. Seek alternative news sources. Never let us forget the truth will not be televised.
Voilà, c'est ça. C'est un jingle assez sympa en anglais, certes, mais en fait en anglais exprès. Hein, le mass media, on peut comme ça, si on imaginait cette espèce de croque-mitaine que sont les mass media et la désinformation qui a cours, eh bien on voit ça un peu en anglais. La révolution ne sera donc pas télévisée, c'est ce que disait le jingle. Nous sommes dans les conditions du direct depuis le Festival Chateaubriand, le pré-jour de Festival Chateaubriand qui commence pour de vrai en fait demain. Pourrait-on dire, demain avec de la radio de nouveau, et puis on va faire le sommaire hein, sous peu de ces deux jours de radio, et puis ensuite jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il y aura des concerts, il y aura des stands, plein de choses ici sur la place de Chateaubriand, mémoire d'Outre-Tombe, hein, ça se situe au Paquis, et on s'y mène par le bus 25-1 ou alors le tram 15, l'arrêt du tram c'est Butigny, et puis sinon pour les autres bus c'est de Chateaubriand, l'arrêt. Voilà, et puis les informations se trouvent sur le site de la comète www.lacomète.ch. Alors au programme de cette émission, mais avant tout, on va saluer deux choses, deux bonnes nouvelles. La première, c'est le murage, le murage de la mairie du Grand Saconnet, c'est bien drôle. Après que monsieur le maire eut refusé que le tournoi antiraciste ait lieu sur sa commune, on ne sait pas quels accords secrets font que la construction du centre fédéral soit si importante que l'on ne puisse pas aborder ce sujet-là, alors que la liberté d'expression a priori est assuré dans ce pays, eh bien, il faut croire que non. Eh bien, cette nuit, l'entrée de la mairie du Gros Saconnet a été murée. Et une coupe ainsi qu'un diplôme a été décerné à la mairie la plus raciste, suite aux méfaits, pourrait-on dire, de monsieur le maire. Monsieur le maire, on va le nommer quand même, ou bien ? On va dire ce qu'il dit. Alors, c'est Laurent Jimaya qui est un maire élu sur la liste verte. Et il faut savoir que c'est un monsieur qui est tout de même issu de l'immigration béninoise. Donc, il aurait eu plutôt... Enfin, voilà. Après, il y a les conseils municipaux, il y a tout ça. Donc, il n'est pas tout seul à décider, bien entendu. Ça, c'est la première des bonnes nouvelles. On trouvait ça plutôt drôle. Et la deuxième très bonne nouvelle, pour de vrai, c'est l'article 12 de la Constitution fédérale, dont je vais faire lecture maintenant. L'article 12, droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Alors il faut savoir que depuis le 1er juillet, obligation d'aller de passer par le SARA n'est plus faite. Voilà, Gérard, c'est magnifique. Hein.
C'est extraordinaire.
Le SARA, le service asile et rapatriement de l'aéroport de Genève, où on va le rappeler, qu'en était-il de ce SARA ? C'est qu'en fait, les personnes qui sont à l'aide d'urgence, on le rappelle, c'est 10 francs par jour, ni plus ni moins, ça va comme somme, eh ben, étaient obligées d'abord de se rendre à l'OCPM, enfin plutôt d'abord au SARA à l'aéroport, puis à l'OCPM, pour pouvoir toucher à l'hospice ensuite les 10 francs quotidiens qui leur permettent de survivre. Mais voilà, si on prend le bus et qu'on fait ces trois étapes-là, on a déjà plus que la moitié de sa somme. C'est une obligation qui est abolie. Donc on est ravis, on salue et on dédie cette émission au collectif Article 12, donc à la coalition des associations de la société civile, plus d'une cinquantaine. On va citer peut-être juste Perse Frontières, qui est également une fêtière, mais qui, en mettant la pression, eh bien, ont permis à ce que cette obligation affreuse concernant les personnes à l'aide d'urgence eh bien, n'est plus court.
Voilà. Bravo.
Ouais, on peut leur dire un grand bravo en tout cas. Alors ça nous permet évidemment de faire la transition concernant la Constitution et la Constitution fédérale. Vous êtes parmi nous, Gérard et Bernard, et je vais immédiatement vous céder la parole pour que vous vous présentiez. Vous êtes là parce qu'on va parler de cette nouvelle Constitution fédérale qui pourrait, pourquoi pas, naître d'un mouvement citoyen qui se créerait ad hoc, exprès pour, et qui, si j'ai bien compris, est déjà, enfin, vous avez déjà le pied à l'étrier, vous. Mais peut-être commençons par le début. Voudriez-vous vous présenter, Gérard, tu veux commencer ?
Ben alors, volontiers, d'accord. Mais Gérard, bon, je crois que je suis souvent à cette antenne, donc les gens me connaissent peut-être.
Oui, oui, mais...
Ceux qui seraient cet après-midi pour la première fois, je suis dans plein de trucs, Stop Tisa, etc. En général avec Chloé, qui est en vacances en ce moment en France, qui ne peut pas être avec nous. Je la salue si des fois elle écoute en ce moment. Et puis en fait, eh bien, je fais... un certain nombre de choses, dont les AAA+, l'Assemblée des actionnaires actifs et positifs de la Banque nationale. Et puis, dans les différentes réunions qu'on a eues, on a côtoyé assez souvent François Tsibental, qui lance avec nous, en fait, une idée qui est la révision totale de la Constitution fédérale, ce qui permettrait de nettoyer un certain nombre de choses, de revenir éventuellement à un certain nombre de choses qui ont été oubliées ces dernières années. Disons, ça permet en tout cas une grande effervescence, parce que juste par le fait qu'on ait parlé de ça, eh bien, il semblerait que tout plein de monde soit enthousiaste. Alors, il s'agit de faire un grand brainstorming ces années qui viennent.
D'accord.
C'est moi qui viens.
Oui, voilà, c'est ça, parce qu'on ne sait pas encore combien de temps ça pourrait prendre, cette gestation. Bernard.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Bernard Dugas. Moi, j'ai...
Bien prêt.
Oui, j'ai une formation d'ingénieur, donc je suis plutôt discret d'habitude en informatique. Et puis, j'ai commencé à voir des choses qui me paraissaient incohérentes, à commencer dans le domaine de la monnaie. Et puis, à travailler dans le domaine de la monnaie, je suis aussi au AA+, un élément fondateur pour aller voir et comprendre comment ça se passe, la gestion de la monnaie à la Banque centrale. Puis quand on regarde la monnaie, on regarde forcément les lois. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des grosses incohérences dans les lois, à commencer par la Constitution qui n'est pas respectée. Parce qu'en fait, la Constitution, il faut savoir, c'est un beau papier, mais les juges ne sont pas obligés de la respecter. En fait, personne n'a besoin de la respecter. On a des exemples concrets.
On va y venir, on va y venir à tout ça, bien entendu.
Et donc, voilà, c'est un sujet sur lequel il faut travailler, parce que on a l'apparence de la démocratie, mais c'est à peu près tout.
Très bien, très bien. Alors, sur la Constitution qui a cours jusqu'à présent, on commence par au nom de Dieu Tout-Puissant. Sachez que c'est, je dis ça, je le rappelle, parce que je sais que ça fait grincer des dents beaucoup de personnes. Dans celle que vous proposeriez, en tout cas, les premiers jalons, en tout cas, bonjour Ivar, comment vas-tu? alors, le titre, l'article 1 serait le suivant, et il m'a fait bien plaisir de le lire. « Toutes les lois, leurs ordonnances et les privilèges sont abolis. » Ça, c'est clair, et on commence par nettoyer, en fait, pour commencer. Voilà, et l'article 2, je vais m'arrêter là, hein, juste ces deux articles. « Tout être humain étant libre et égal à tous ses semblables, acquiert la responsabilité de vérifier que chacun de ses actes est en cohérence avec lui-même, avec les autres et avec le monde, et réciproquement entre toutes et tous. » Ces deux articles-là, eh bien, ça nous plongerait dans un abîme incroyable, parce qu'au bout du compte, si on voit, si on observe la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, on est aux antipodes de ces valeurs-là qui sont énoncées là.
Oui, oui, alors ça vaut la peine de parler de la genèse du texte que
oui.
tu viens de lire.
Mm-hmm.
Parce que, en fait, ce texte, il a été travaillé et il a été énoncé surtout par Gérard Fouché lors d'un atelier citoyen de réécriture de la Constitution qui sont chers à Étienne Chouard. Et Étienne Chouard était là il y a un petit peu, peut-être un mois comme ça, à Lausanne. Et puis on a eu un atelier constituant et c'est à ce moment-là que ce texte a surgi. Alors, il s'agit bien entendu un petit peu d'un... comment dire c'est pas forcément du tout ce texte qu'on va défendre. Mmh. Ce texte, il est là pour montrer qu'on peut avoir d'imagination et sortir, disons, de la petite réécriture habituelle des constitutions qui revient à changer une virgule par là, un mot contre un autre ailleurs. Et tout ça, ce n'est pas suffisant. Il y a vraiment une idée de remise en cause assez profonde de la Constitution, ou surtout en cours, une discussion, un débat sur ce qu'on peut garder et ce qu'il faudrait vraiment changer. Certainement que, par exemple, dans ce débat-là, on va revenir sur des constitutions précédentes, parce qu'il arrive que la constitution précédente avait des points qui étaient en fait plus favorables que les points actuels, entre autres sur la monnaie. Hein.
Par exemple, sur la monnaie. Mais toute la
plein de choses à dire.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'il faut dire, c'est que la première chose à faire, ça serait que la constitution serve à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est un texte et on a des exemples concrets parce qu'on l'a étudié sur la BNS, c'est vrai, sur la Banque nationale, où il y a un texte qui est une ligne très claire dans la Constitution, c'est l'alinéa 4 de l'article 99 qui dit « 2/3 du bénéfice de la Banque nationale suisse seront versés au canton ». Et c'est 2/3 au moins.
Mmh. Et ce n'est pas le cas actuellement.
Et actuellement, cette année, le bénéfice de la BNS a été de 54 milliards de mémoire. Donc les cantons auraient dû recevoir voilà, 36 milliards à se partager entre eux, ce qui aurait fait un peu moins de 2 milliards pour le canton de Genève, par exemple. Mais au lieu de ça, il y a eu une convention et un texte de loi qui a été écrit il y a quelques années, en 2004, je crois, qui dit que non, ça sera, les cantons vont se partager 1 milliard et 2 s'il y a plus de 20 milliards de réserves.
Ok.
Ce texte de loi, eh ben, c'est lui qui doit être respecté parce que la population, nous, on n'a pas fait de référendum le jour où il a été fait. D'accord. Et malgré qu'il soit explicitement contraire à la Constitution, que les conseillers fédéraux prêtent serment de faire respecter la Constitution, que même ici, les conseillers d'État, les membres du Grand Conseil prêtent serment de faire respecter la Constitution, et c'est comme ça dans tous les cantons, personne ne l'a fait respecter sur ce texte de loi. Et on n'a plus les moyens d'agir.
Alors, on va revenir, bien sûr,
j'ai juste envie de préciser sur ce truc-là. Il y a la Constitution. En dessous de la Constitution, il y a la loi. La loi qui est votée et modifiée jour après jour au Parlement. Cette loi, c'est même pas dans la loi que se trouve le texte des 2 milliards donnés au canton. C'est une lettre de la BNS qui a été validée par le Conseil fédéral, et si on cherche un peu, on se rend compte que peut-être même là-dessus, on n'aurait pas pu faire un référendum, si on l'avait su.
Ouais.
Alors, donc, ça veut dire qu'il y a le niveau de la Constitution, il y a le niveau de la loi, et il y a ensuite un certain nombre de conventions qui se font, comme ça, entre les services.
Là, on voit bien qu'il y a une chaîne de relais.
Sur la loi, il y a une chose très importante, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire d'initiative sur la loi suisse. Ça, ce serait à changer dans la Constitution.
Par exemple, oui, hein? Tout à fait.
Il se trouve qu'à Genève, par exemple, on a le droit de faire des initiatives législatives, mais pas au niveau fédéral.
Mmh.
Et donc ça permet déjà pas de s'attaquer à l'application de la Constitution, ce qui aurait été une chose qui permettrait, en effet, d'obtenir déjà un peu mieux, ne serait-ce que sur une question, par exemple, de banque nationale.
Absolument. Revenons aux fondamentaux, parce que là, effectivement, on va un petit peu trop vite. On va revenir sur ce que vous venez de dire, mais voilà, j'aimerais déjà, pour les personnes, les auditrices et les auditeurs, que l'on clarifie quelques points essentiels. Voilà, à quoi sert une constitution ? S'il fallait... Voilà.
D'accord. Ouais.
Alors, qui aurait envie de répondre à cette question ?
Disons qu'a priori, une constitution permet d'être d'accord sur comment le pays est géré et d'avoir justement des éléments qui permettent de créer une loi qui, elle, va gérer. Alors, quand on parle de la Banque nationale, c'est un des éléments, mais il y a une centaine d'autres petites choses. Il faut savoir que, par exemple, dans la Constitution, très au début, on trouve des trucs comme la censure est interdite. Merci, c'est bien. C'est pas toujours appliqué non plus.
Voilà, hein. Parce que tout à l'heure, au sommaire de l'émission, je disais à l'article 12, par exemple, cet article qui effectivement était largement bafoué jusqu'à présent. Maintenant, on revient un petit peu en arrière. Mais voilà, on voit qu'a priori, ce sont quand même des valeurs essentielles et fondamentales qui sont fixées, des orientations générales, fédérales, qui sont fixées dans cette Constitution. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est après souvent la mise en œuvre au bout du compte de cette Constitution qui n'est pas opérationnelle, ou en tout cas qui est biaisée pour le moins.
Pour le moins.
Ouais. Alors, quels sont vous qui décidez à un moment donné de lancer ce projet de révision totale de la Constitution. Et on va voir qu'au total, c'est important parce que ça implique notamment des élections. Il faut changer les chambres, tout ça, si je ne me trompe pas.
Oui.
Mais avant cela, quelles sont les modalités pour y arriver à changer cette Constitution fédérale? Qui peut le faire et à quelles conditions?
Alors, d'après ce qu'on a compris, je crois que c'est totalement comme ça, 100 000 signatures comme pour initiative. Et voilà, on est à partir de ces 100 000 signatures, on est déjà dans le processus de réécriture de la...
Donc 100 000 signatures de citoyens suisses suffisent ce que l'on contraigne finalement les autorités en place à réviser intégralement la Constitution.
Tout à fait.
Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passerait au moment où ces 100 000 signatures seraient réunies? On sait que voilà, il faudrait un texte, et c'est là l'objet de cette discussion, c'est de la réécrire.
Il faudrait constituer une opération de constituants qui vont écrire cette Constitution. Bien entendu, ces constituants peuvent choisir de partir du texte actuel et le modifier point par point, ou en produire un nouveau. Mais le plus probable, ce serait qu'on reprenne quand même une bonne partie de la Constitution actuelle.
Et alors, au point où on en est actuellement, vous avez d'ores et déjà créé ce collectif qui pourrait aller à la Constituante.
On en est aux prémices.
D'accord.
On en est aux prémices.
Okay. Alors, d'où vous est venue cette volonté, justement, de tout renverser?
Tout renverser, c'est peut-être un grand mot en Suisse.
Non, qui sait.
Mais en tout cas, c'est peut-être une simple notion d'efficacité. On se rend compte que pour faire une initiative sur un petit détail de la Constitution, ça demande beaucoup d'énergie. Et on a de grandes chances qu'elle n'aboutisse pas. Et du coup, on n'a même pas le droit d'aborder plusieurs sujets. Aujourd'hui, quand on fait une initiative sur la constitutionnelle, on est obligé de traiter un seul sujet, d'avoir une unité de matière. Si on en traite deux, on se fait rejeter tout de suite. Donc la seule solution pour être plus loin et finalement pour être plus efficace, parce que vu l'énergie que ça demande, par exemple, Monnaie Pleine, c'était plusieurs
Monnaie Pleine,
années.
Par exemple, parce que c'est vrai qu'une bonne partie de ceux qui sont dans le projet étaient dans le projet Monnaie Pleine.
Il a fallu au minimum 6 ans. Puisque ça a été déposé il y a 2 ans, il y avait 2 ans avant pour déposer, puis il y a bien eu 2 ans de préparation avant. Donc quand on voit l'effort, le travail que ça demande, et du coup les fonds aussi, les ressources...
C'est un projet au long cours.
Au point où on en est, autant faire directement la Constitution entière.
C'est ça, absolument.
Surtout qu'il y a plusieurs points qui ne vont pas.
Lorsque l'on se propose, quand l'on aspire à ça, est-ce qu'on a déjà en tête des modèles, des exemples, des textes ou des auteurs auxquels on aurait envie de recourir? Je veux dire, on l'a dit, la Constitution, c'est quand même un corpus de textes essentiels, fondamentaux. Est-ce qu'on en revient, je ne sais pas, à des philosophes?
Pas que je sache. Je crois qu'on part plutôt d'un certain nombre de personnes qui sont soit très remontées par rapport à un article, par rapport à l'autre.
D'accord.
Et puis quelques personnes qui en souffrent.
Donc on part.
Donc
plus.
Ça veut dire que c'est si on veut un grand brainstorming qu'il faut qu'on mette en place d'abord, et puis ensuite une recentration sur des points importants, sur une logique.
Ça va plus dans ce sens-là. On est praticien et on observe les défauts et les qualités certainement. Il y en a certainement, mais les défauts de cette Constitution, et c'est là où on se dit on peut faire différemment, plutôt que de dire tiens, on va s'inspirer de textes fondamentaux, je pense à Beccaria, on pourrait saupoudrer la Constitution de ce type de valeurs-là. Dans quel sens on va?
On pourrait, mais pourquoi pas. Mais moi, ce que je dirais en plus, c'est qu'on va, on va bien entendu... relire la Constitution, tomber sur les points sur lesquels nous on est tombé comme accroche, et puis par ailleurs ajouter au mouvement des personnes qui ont des choses à apporter pour ça, et certainement qu'en Suisse, parce que là à ce moment-là il faut jouer assez large, il faut aussi que du côté suisse-allemand, il y a aussi des personnes qui s'ajoutent au projet. Mais on sent une dynamique qui est assez immédiatement enthousiasmante, dans le sens que bon, c'est François de Siebenthal qui a mis sur son site plein d'éléments là autour. Et très vite, il a eu plein de réactions.
Oui, parce qu'on sent qu'il y a la volonté d'être extrêmement inclusif. En tout cas, quand on lit justement ces prémices, on sent que l'idée, c'est de dire venez, rejoignez-nous, faites-nous part de suggestions, d'idées, etc. Donc ça, on voit qu'il y a, déjà, ça prend.
Oui, et puis c'est pas un choix. C'est que si on veut que ça soit voté, donc que ça soit utile, il faut qu'il y ait la moitié des Suisses qui le votent, enfin au moins la moitié des votants.
Ouais. Donc la moitié des Suisses, ils vont voter le texte qui sera écrit par ces gens-là. Hein, les 100 000 suffisent pour commencer le processus.
Ok. Alors, quels sont ces points centraux qui vous ont immédiatement mobilisé? Si j'ai bien compris, la monnaie en est un. Y en a-t-il d'autres, vraiment, de points saillants de cette ancienne constitution, pourrait-on dire, de cette future ancienne constitution, qui vous ont immédiatement mobilisé?
Je crois qu'une des raisons pour laquelle on part dans cette idée, c'est qu'on aimerait que dans la Constitution soient mieux articulés les concepts finalement intéressants qui sont contenus déjà dans la Constitution actuellement, uh-huh, et la loi. Parce que quelque part, si la Constitution donne des bonnes, contient des textes qui sont même très utiles pour notre vision du monde, eh bien, on a l'impression qu'elles s'appliquent mal dans la loi, mmh, et ouais, ensuite que la loi les applique mal. Tout ça, ça veut dire qu'il faut au moins que dans cette nouvelle constitution, on impose que la loi suive cette constitution. Et pour ça, il manque une chose essentielle en Suisse, c'est quelque chose qui pourrait s'appeler la Cour constitutionnelle. Mmh. Oui. C'est-à-dire une cour qui puisse juger que la loi n'est pas correcte.
Alors, c'est là-dessus qu'après, il peut y avoir des... Pour moi, ça ne serait pas une bonne chose parce que ça centraliserait encore. À nouveau, comme en France, et on a vu qu'en France, ça ne marchait pas. Puisque quand même, la Constitution suisse, même si on a des défauts à lui reprocher, je trouve qu'elle est quand même meilleure que la Constitution française, par exemple. Donc déjà... Et peut-être qu'il voudrait mieux, par exemple, que simplement les juges, chaque juge peut faire appliquer la Constitution directement. C'est tout, ça, mmh, suffit. Et du coup, ça devient décentralisé. Il n'y a pas besoin, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une cour constitutionnelle centrale. Il faut juste que les juges aient le droit de le faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les juges sont tenus, ouais, de faire respecter d'abord la loi, les accords internationaux, avant la Constitution. Et en fait, ils ne sont pas tenus de respecter la Constitution.
Donc, en fait, c'est ces courroies de transmission qui sont manquantes,
oui,
selon vous.
Mmh. Oui. Donc, il y a une réflexion à faire. Moi, je suis d'accord. Il y a aussi toute la question de l'introduction de citoyens qui auraient des droits pour aller modifier justement cette articulation entre les lois, la Constitution. C'est-à-dire des citoyens qui aient un droit de parole dans ces questions.
D'accord. Si par hasard autour de nous les personnes qui sont présentes souhaitent intervenir, sachez que c'est possible, hein, si vous souhaitez questionner nos invités. Alors, d'ores et déjà des ateliers en cours où les personnes sont d'ores et déjà les bienvenues, peuvent-elles vous rejoindre et comment peuvent-elles le faire? Ou pour le moment vous êtes encore en cercle et vous êtes en gestation?
On est en gestation, on a fait un atelier, en effet c'était avec Étienne Chouard qui est assez... intéressant à ce niveau-là parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il le fait en France très régulièrement, des écritures de morceaux de constitution.
D'accord.
Donc il nous a apporté ses connaissances à ce niveau-là, mais il faut qu'on reprenne ça au niveau suisse, ça va être assez différent peut-être, on verra.
Pour le moment, ce surgissement est présent ici à Genève. Avez-vous d'ores et déjà pris des contacts de l'autre côté de la frontière linguistique, des frontières linguistiques? Est-ce qu'il y a déjà des personnes en Suisse allemande ou au Tessin avec lesquelles vous êtes un petit peu en contact?
Ouais, je dirais que le centre actuellement, il est plutôt à Lausanne. Mais non, alors de l'autre côté, oui. J'étais hier soir à un pique-nique des anciens de Monnaie Pleine. Et puis, en fait... quand je dis hier soir, c'est avant-hier soir. Et puis, en fait, il y avait un certain nombre de Suisses allemands qui étaient là. Donc, ça veut dire que oui, il y aura les contacts. Ça va. Il faut que ça se mette en place.
Ok. Est-ce que vous avez déjà un calendrier des prochains moments charnières ou pour le moment, pas encore? L'idée là, pour le moment...
Je dirais qu'on veut démarrer à la rentrée septembre, comme ça. Ouais. Hein. L'été, ça permet de réfléchir.
C'est bien,
oui. Ça crée une dynamique, oui.
Absolument. En tout cas, vous êtes déjà un groupe, peut-on dire, assez nourri, finalement, de personnes qui, comme en plus, c'est un groupe affinitaire, on peut dire, puisque vous vous êtes rencontrés au travers de luttes, déjà, hein, notamment Monnaie Pleine, si j'ai bien compris. Donc, c'est il y a ça. Déjà, comment dire, un sens et une dynamique qui est commune. Et vers laquelle vous tendez.
Oui, ouais. Une dynamique, oui, surtout. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont envie d'agir. Ouais. C'est ça qui compte, finalement.
Et puis alors, vous pensez vous appuyer sur quel type de personnes, ensuite, pour implémenter ce groupe-là? Vous allez aller chercher des étudiants, vous allez chercher des personnes un peu mécontentes, voilà, en général, un petit peu du système, ou vers qui vous allez aller pour commencer?
Le sait-on déjà.
C'est encore un petit peu...
Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on aura des personnes qui sont des professionnels de la loi. Uh-huh. Parce que, le peu que j'ai vu, il y en a quand même un grand nombre qui se rendent compte que ça ne va pas. Quoi. Ils sont obligés de faire avec aujourd'hui au quotidien parce que voilà, c'est aussi leur gagne-pain.
Uh-huh, tout à fait.
C'est aussi leur manière de gagner de la monnaie.
Absolument.
Mais ce n'est pas forcément ce qu'ils aimeraient faire.
Ok. Je pensais, oui, alors... Enfin, moi, dans ma question, je pensais au fait suivant, c'est-à-dire que c'est un, comme on l'a dit, un travail au long cours. Il va y avoir des aspects extrêmement techniques à traiter, j'imagine. Hein. Enfin, là, je réfléchis un petit peu à haute voix. Alors, je m'imaginais qu'on pourrait avoir un espèce de panel très large qui pourrait aller du juge à l'avocat, en passant par également la personne qui est précaire et qui subit la loi sans pouvoir automatiquement ou sans même comprendre la place qu'elle a au milieu de cela. Et voilà, et justement d'avoir une sorte de panel le plus large possible pour pouvoir avoir les compétences techniques, je veux dire, d'aller dans cette construction-là et également, par exemple, voilà, un philosophe, des sociologues, enfin des gens qui pourraient également inspirer quelque chose. Et puis des praticiens d'une certaine manière, et puis des gens qui subissent, entre guillemets, ces lois et cette constitution.
Tout à fait. Si je prends le mail de François de Siebenthal, qui a été envoyé assez largement, les réponses à ce mail sont souvent, plutôt que les avocats ou les juges, sont... le fait de personnes qui subissent.
Voilà, c'est ça.
Là, il y a une personne, par exemple, qui se plaint énormément de l'avance de frais de justice qui empêche en fait de s'adresser vraiment à la justice ou en tout cas de pouvoir faire justice. Quoi.
Ouais. Il y a
des gens qui voudraient que le travail des juges puisse être sanctionné, puisse être vérifié par les citoyens parce qu'il semblerait que enfin, toutes les questions de classement, par exemple, un juge classe quelque chose. Pour quelles raisons il semble que finalement ils ont le droit au-dessus de tous les droits de classe et les affaires. Donc il y a des gens qui se plaignent à ce niveau-là.
Donc ça, c'est déjà une recension qui a cours depuis un moment. Et les gens y répondent en disant vice et vertu de la constitution actuelle.
Ouais, le mail, il a été envoyé le 3 juillet. Puis il y a tout de suite... Non, attendez, c'est pas juste. Le premier jour, en quelques jours, il y a eu plein de réactions.
D'accord.
Ça monte, voilà, 1er juillet.
Donc là aussi, ça montre bien qu'effectivement, c'est un point sur lequel les gens seraient extrêmement réactifs.
Oui.
Si on pouvait, pour de vrai, les consulter.
Mais je crois qu'il y a aussi un problème d'ouverture et de la vraie démocratie, finalement. Et j'entendais un professeur de maths, tu connais le sujet, qui disait que la base de la démocratie, c'est pas Demos le peuple, c'est Demos la démonstration.
Ah,
que
ouais.
Chacun puisse avoir les moyens de juger et de démontrer que telle solution est meilleure que l'autre.
Bien sûr.
Et je crois que la possibilité de refaire la Constitution, c'est aussi la possibilité que chacun se rende compte qu'il doit être capable de la comprendre, qu'il peut la comprendre facilement, parce que ça doit être des principes simples. C'est la différence entre la Constitution et la loi. Mmh. La Constitution, elle dit les principes, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut pas. Et puis après, la loi, elle va dire comment on applique. Mais normalement, la Constitution, chacun doit pouvoir dire « Ouais, ben cette ligne-là, je ne la comprends pas. Est-ce que c'est normal ?» Si on ne la comprend pas, c'est encore plus important de venir et de la réécrire parce que tout le monde devrait la comprendre.
Absolument. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait faire le constat que même la Constitution actuelle, c'est quelque chose qui est assez méconnu au bout du compte ?
Absolument. Je dois dire que moi-même, quand j'ai imprimé la Constitution et que je suis tombé sur un certain nombre d'articles, je me suis dit, mais alors c'est intéressant, ça veut dire que on a vraiment des libertés supplémentaires par rapport à ce que
tu pensais.
je prends la page, l'article 21, la liberté de l'art est garantie. Je ne savais pas.
Ben non, moi non plus, effectivement. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comment est-ce qu'on explique que l'on ne soit pas au courant de cette Constitution ? C'est parce qu'on ne prend pas le temps, c'est parce qu'on ne nous l'explique pas non plus. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'elle est pas mise en avant au point, pas de la dissimuler, mais en tout cas, disons, de ne pas trop s'y intéresser parce qu'on voit bien qu'à l'intérieur, il y a quand même des trésors. Comment vous expliquez le fait que cette Constitution, elle ne soit pas présente dans chaque appartement, voilà, et puis qu'elle ne soit pas présente dans chacune des têtes des citoyennes, des citoyens, des personnes de ce pays.
J'imagine que quand il y a eu cette révision, les gens l'ont reçu à la maison et l'ont un peu lu. Et puis alors, depuis, ça a été sacrément oublié. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que je vais un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que le processus de révision totale de la Constitution serait un moyen pour que les gens la relisent.
La réapproprient, absolument. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, il faudrait une constituante. Comment vous verriez d'ailleurs vous-même cette nouvelle, ce processus de constituante? Est-ce que ce serait une forme de forum populaire, de consultation des personnes? Et vous avez déjà un petit peu une vue sur quelle forme ça pourrait prendre? Parce que ça peut être relativement compliqué.
Ouais, moi, j'ai des vues qui sont peut-être un peu des rêves, mais pourquoi pas? C'est toujours avec des rêves qu'on construit les choses. C'est-à-dire qu'un certain nombre de constituants soient, par exemple, tirés au sort, plutôt que d'autres moyens. Et puis à partir de là, un certain nombre d'autres personnes les verraient régulièrement dans des réunions peut-être locales, publiques, pour qu'ils ne soient pas seuls à décider les choses pour les autres.
Ouais. Parce que comme vous l'avez dit, ça, énoncé comme ça, comme vous le faites, ça devient extrêmement intéressant et les enjeux majeurs surgissent. Le fait exactement de se réapproprier cette constitution, de dire, allez, on met... Moi, ça me fait penser un peu de manière utopiste à l'an 01. On arrête tout, on regarde, on discute. Et puis là, on reconstruit et on rallume vraiment ce dont on a besoin. On laisse tomber ce qui est vraiment du superflu et puis on réinvente. On réinvente le monde à notre mesure. Ce serait extrêmement intéressant de se dire qu'effectivement, beaucoup de choses nous échappent actuellement et que l'on pourrait peut-être, à l'aide d'une constitution qui soit effectivement enracinée dans les volontés populaires, eh bien, changer finalement le cours des choses, en tout cas dans le pays.
Il y a aussi un problème de complexité. C'est que quand on voit le texte, voilà, mais il faut déjà lire et se souvenir de la première page quand on a lu la dernière, c'est déjà difficile. Donc il y a aussi un problème de représentation des choses, et peut-être qu'on aurait des moyens aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a des années avec les technologies informatiques pour représenter les choses d'une manière plus vivante,
simple,
pouvoir faire une sorte d'arbre de la Constitution avec tous les articles qu'on peut représenter physiquement. Parce que quand on peut toucher les choses...
Parce que justement, c'était le sens de ma question tout à l'heure, quand je disais, faut-il être accompagné de techniciens, de juges et tout, parce qu'effectivement, il y a une sémantique qui est tellement compliquée qui, des fois, nous échappe complètement, parce que ce sont des termes extrêmement... extrêmement fins, extrêmement... Voilà, et qui échappent à notre compréhension.
Mais aussi parce qu'elle s'est complexifiée à cause du mécanisme aujourd'hui qui nous interdit de faire des lois. Du coup, les gens contournent en faisant des articles de constitution qui sont beaucoup plus compliqués que les principes.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, ça aurait dû être des lois, mais qu'on n'a pas le droit de faire, donc on le met dans la constitution. Donc.
Absolument, oui. Au point où, dans les années encore peut-être 90 ou 80, je me souviens d'avoir eu l'émanation d'au moins deux ou trois collectifs citoyens dont les desseins étaient de réexpliquer les textes d'initiative. Parce qu'on en arrivait ensuite à des contre-initiative extrêmement compliquée. Donc il fallait voter non pour faire un oui dans non après. Enfin, au bout du compte, c'était extrêmement compliqué. Les gens, finalement, se sont même détournés du vote, hein, d'une certaine manière.
Ouais, ouais. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'en reprenant l'ensemble de la Constitution, on pourrait arriver à quelque chose qui est plus accessible, finalement.
Donc, hein, il faudrait épurer, ouais, d'une certaine manière, oui, également.
Oui. Ouais. C'est vrai que si je regarde, je crois que le dernier article, il est au numéro 196. Hein. Uh-huh. Donc, c'est quand même énorme. Tu as des exemples, Bernard, de points, par exemple, des anciennes constitutions qui ont été changées et qui ont... Ben, il y en a un, en tout cas.
Sur la monnaie.
Sur la monnaie.
On le connaît,
il y en a, en tout cas, sur la monnaie. Ça vaut la peine de...
Oui, alors, allez.
Puisqu'il y avait un article dans la... Enfin, un alinéa, la première ligne dans l'article 99 sur la monnaie et la Banque nationale suisse dans la Constitution, qui disait que la Confédération avait le monopole de la régale monétaire. Mais c'est un vieux mot, la régale.
Oui.
Mais et en fait, ça veut dire que la Confédération avait le droit de... complet, le monopole complet sur la monnaie.
Absolument.
Et en 99, cette ligne a disparu.
Ah bon?
Oui. Mais soi-disant parce que c'était trop compliqué. C'est...
Oh. Mais donc, c'est incroyable, ça.
Ouais. Oui. Donc, toute cette question de création monétaire par les banques commerciales,
en fait, elle se joue là.
Qui était contrée au niveau de l'initiative Monnaie Pleine, en fait, elle était anciennement en fait une réalité.
Qui était contourné. Hein. Ils étaient contournés cette phrase de toutes les manières. Mais
alors, donc, à force de la contourner, ils l'ont enlevée.
Ouais, le contournement, c'est concernant, on peut dire, la monnaie scripturale. On peut dire que
concernant toute la monnaie, justement. Cette phrase-là était générale.
Voilà, c'est ça. C'est que cette phrase-là, du coup, comme tu le dis, elle était... Mais comment est-ce qu'on peut rétrocéder comme ça une phrase de la Constitution fédérale sans que personne ne s'en alerte, ne s'en...
En gros, non seulement il faut que les gens ne s'en rendent pas compte sur le moment, uh-huh, mais même s'ils s'en rendent compte, ils ont très peu de temps, je crois, pour... Oui. Pour créer un référendum, parce que c'est le seul moyen qu'on a au niveau du peuple pour dire non, cette loi, elle n'est pas cohérente.
Là, on ne pourrait pas, par exemple, dire non, mais cette phrase doit revenir. Ça, c'est plus possible maintenant. Bah,
si on réécrivait la Constitution, on pourrait le remettre.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est le seul moyen de le remettre.
Je trouve assez choquant. C'est ce que tu viens de nous dire là. Oui. Donc effectivement, il devient urgent de se poser la question sur...
Ce n'est pas totalement le seul moyen. Il y a moyen de faire une initiative sur ce point-là. Uh-huh. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les gens la comprennent. Il semblerait que Monnaie Pleine, c'était un petit bout de ça, justement.
Ouais. Alors concernant justement, j'aimerais juste qu'on vienne sur ce point. Tout à l'heure, on parlait justement de courroie de transmission. On l'a vu, et je dis ça parce que le monsieur est encore vivant, mais pour l'initiative Minder... où lui-même a dit, voilà, les parachutes dorés, ben, on a voté, mais on n'applique pas.
Ouais.
Lui-même dit, et pourtant, ce n'est pas quelqu'un de gauche non plus, hein, spécialement, il dit, vraiment, là, il y a un dysfonctionnement majeur, c'est juste pas possible. Comment est-ce qu'on quitterait cet état de fait-là, selon vous, en réécrivant la Constitution? Là, il y aurait moyen que la Constitution contienne quelque chose de plus qui soit contraignant. De quelle manière, comment on pourrait faire ça?
En tout cas, si le premier article, c'est on abolit toutes les lois existantes, là déjà ça oblige à... Et on rajoute un article qui dit que, ben, on applique d'abord la Constitution, ce qu'on disait tout à l'heure, que les juges doivent appliquer la Constitution. Tout le monde doit d'abord appliquer la Constitution.
Ben voilà. Ouais. En fait,
on a déjà résolu la mécanique.
Hein. Absolument.
C'est la base. C'est
tout à fait. Ouais, non, effectivement. Alors...
effectivement, mais il y a du travail. Non, mais il y aurait à écrire une Constitution... avec justement des constituants qui sont embarqués dans l'idée que on va plus loin que changer quelques virgules. Mm. Et puis ensuite, il faut convaincre le peuple que c'est la bonne.
Voilà.
Hein,
ça, ce serait...
Parce que là, il y a une votation.
Mais
là,
si déjà il y a une discussion, ça sera déjà important en termes pédagogiques.
Et puis, c'est une aventure. À Genève, on a eu en petit, disons, cette nouvelle constitution genevoise qui a quand même... après, voilà, on peut dire les vices et ce qui a... Enfin, voilà, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, potentiellement, c'est extrêmement intéressant de se dire qu'on va se revisiter et puis se construire... d'une autre manière et tous ensemble, quoi. Enfin, ça pourrait être une belle occasion, je trouve, d'une vraie aventure commune, je veux dire, parce que là on voit bien que tout le monde avance un peu divisé, que la zizanie est semée un petit peu partout, enfin tout ça, et ça pourrait être justement cet élément déclencheur d'une sorte de reprise en main de toutes et tous.
L'important, c'est le chemin.
Mais voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Par contre, alors vous, vous effectivement, vous parlez, parce que moi, j'allais citer Sioran pour la virgule, je rêve d'un monde où l'on mourrait pour une virgule. là, c'est pas le cas. L'idée, c'est pas le fait de changer des petites virgules. Cela dit, des fois, ça peut vraiment changer les choses. Mais voilà, là, l'idée, c'est vraiment de se dire épurons, si j'ai bien compris les axes, c'est simplifions, enfin, épurons sans simplifier, parce que je veux dire, l'idée, c'est pas non plus d'être simpliste, mais c'est d'être simple, c'est d'être accessible. Et rendons-la surtout accessible pour qu'elle soit opérationnelle au bout du compte.
C'est ça.
C'est vraiment ça, les premiers axes, pourrait-on dire. Mmh.
Okay. Il y a peut-être une deuxième chose dont je voudrais parler qui n'est pas directement sur la monnaie, mais qui est en fait dans l'article 15, tout début, la liberté de conscience et de croyance est garantie. C'est l'article, l'alinéa 1 de l'article 15. Et à la fin, nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir des actes religieux. Alors moi, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte en travaillant sur la monnaie, c'est qu'en fait, on m'oblige à croire aujourd'hui à l'existence de personnes morales. Mmh. C'est un dogme religieux pour moi.
Ouais. Non, mais c'est vrai.
Et même les personnes morales peuvent aller au tribunal et m'attaquer, alors que c'est des noms.
C'est vrai.
Ça n'existe pas. C'est...
Ouais, c'est...
Et ça, c'est la base de... Parce qu'on dit qu'on est tous égaux, libres et égaux en droit. Mais s'il y a des personnes qui maîtrisent des marionnettes, qu'on appelle des entreprises, des personnes morales, qui ont un nom, en fait, et ben, ça veut dire qu'elles ont le droit de m'attaquer via leurs marionnettes. Donc plus la personne a de marionnettes, plus elle a de pouvoir.
Exactement.
Et ça, c'est quelque chose, par exemple... Quand on regarde la Constitution, il faudrait faire apparaître de manière beaucoup plus claire, la Constitution s'adresse aux humains. Mais... Et si vous lisez la Constitution sous cet angle-là, vous verrez qu'en fait, partout, on voit que les humains sont là. Et puis, de temps en temps, il y a le mot « personne » qui arrive. Et derrière « personne », il y a « personne
physique,
morale » et derrière « morale ». D'ailleurs, rien que le choix du mot « personne morale », c'est fabuleux, puisque ça sous-entend que donc nous, les personnes physiques, les humains, on n'a pas de morale, puisque c'est les personnes morales qui ont la morale.
Ah, mais implicitement...
C'est ça que ça veut dire.
Non, mais je suis d'accord. J'aurais dû... J'ai pas relu, hein, j'ai pas regardé. En préparant l'entretien, je me suis pas
posé. Non,
mais c'est extrêmement intéressant, ça, hein, effectivement. Le personne morale et personne physique, la distinction, hein, effectivement.
Alors ça s'adresse aux humains, voire aux êtres vivants. Mais...
exact. Alors après, on a cet exemple fantastique au Venezuela, si je me trompe pas. C'est en Équateur. C'est Rafael Correa qui, au moment où il réécrivent la Constitution, y insère des droits de la nature. Ça, c'est pas mal. Et c'est là, à nouveau, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est là une occasion unique de se dire, ensemble, réfléchissons à nous, mais pas qu'à nous, là où on habite, là où on est, ce qu'on y fait, et avec qui on est, et avec qui on fait quoi.
Ouais.
Et voilà, ça, c'est extrêmement intéressant de...
Oui, de c'est revenir. Fabuleux de mais, voir qu'un contrat voilà. à une existence légale peut aller devant un tribunal, alors que c'est inactif, c'est passif, alors que la Terre sur laquelle on est, qui est et quand oui. même l'être vivant le plus magnifique, le plus merveilleux, lui, on n'a pas le droit de le représenter au tribunal.
C'est ça, exactement.
Donc, Terre devrait attaquer beaucoup de monde si elle n'était pas aussi gentille.
Absolument.
Mais
c'est vrai.
On pourrait la représenter, mais non. Dans la loi, c'est interdit. On n'a pas le droit de représenter la Terre.
Et là, on a également cette distinction personne morale, personne physique. On a là également un exemple de complexification, retorse hein, des articles pour que le plus grand nombre n'y accède pas, quoi. Ou en tout cas, peu, de manière incomplète.
Tout à fait.
Des questions surgiraient-elles ? Marie-Lou.
Bah, je vais peut-être faire un commentaire. On s'est vu il y a pas mal de mois où je débutais mes visites sur l'histoire des squats. Mmh. Et puis dans ces visites, j'ai eu un juriste qui est venu. Et puis de temps en temps, je faisais une réflexion sur le fait que... Donc le tag et le slogan peut-être le plus célèbre de toute cette lutte, c'est « Le droit au logement passe avant le droit à la propriété ». Et après, je partais sur une petite diatribe qui valait ce qu'elle valait. Et lui m'a fait remarquer qu'en fait, c'était pas tellement une histoire de classement, mais c'était plus... des articles qui étaient différenciés, mais n'empêche que il m'a offert effectivement à ce moment-là la Constitution, que j'ai regardée pas spécialement très attentivement, mais en tout cas j'ai essayé d'évaluer cette différence qu'il y avait. Effectivement, au début Je sais pas, Gérard, il pourra peut-être voilà. Ouais. Je vais comme ça, je pourrais vous dire les choses tout à fait concrètement dans les droits fondamentaux. Si je me trompe pas, c'est le droit 19. Enfin, je ne le retrouve pas comme ça, mais en tout cas dans les droits fondamentaux.
Non, parce que ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être dans la Constitution genevoise.
Non, c'est dans la fédérale.
Okay, la fédérale.
Dans les droits fondamentaux, il y a le droit, voilà, le droit à la propriété privée, alors que le droit au logement, il apparaît d'ailleurs d'une manière un peu plus détournée. À la quatrième, si je ne me trompe pas, au quatrième chapitre, qui est plutôt sur les droits sociaux. Difficile, hein, je ne suis pas très habituée à manier tout ça.
Ça va, t'inquiète.
Enfin,
on fera des petites coupures.
Personne n'est habitué, c'est le problème.
Juste pour la Constitution genevoise, je l'ai sous les yeux. Dans la Constitution genevoise, à l'article 38, l'article 38 s'appelle droit au logement.
Oui.
Et le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin a droit d'être logée de manière appropriée.
Voilà. Alors ça, c'est effectivement...
Ça, c'est la Constitution genevoise.
Mais alors, je sais qu'en tout cas, c'est dans la Constitution suisse que...
Comment, tu ne connais pas ta Constitution?
Mais je ne la connais pas par cœur.
Alors, enfin, on a un exemple là, voilà, de citoyenne.
Voilà. Alors, ce qu'il y a, en tout cas, c'est que le droit au logement intervient dans les droits sociaux, alors que les droits fondamentaux, qui pour moi, qu'est-ce qui est plus primaire, un des droits les plus fondamentaux, c'est non pas d'être propriétaire, mais en tout cas d'avoir un toit au-dessus de sa tête pour se sentir protégé, pour pouvoir s'épanouir, enfin pour pouvoir avoir son intégrité physique et morale. C'est vraiment pour moi une base.
Donc là, il y a un problème de priorisation, de hiérarchisation.
Oui, effectivement, on va plus défendre la propriété des gens que leur intégrité physique et morale, dans le sens qu'effectivement, pour moi, c'est super important d'avoir un lieu qui te permette de te construire et de te protéger, de t'épanouir, de veiller sur ta famille, enfin, tout ce genre de choses.
De s'y délasser, de bien entendu.
Voilà. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment le slogan qui était représentatif. Et effectivement, petit à petit, j'ai fait évoluer le début de mes visites sur le fait de citer. Mais j'ai une mascogne, comme on dit à Genève, quand je fais mes visites. J'ai effectivement les articles, je les ai sous les yeux. Et j'ai préparé mon truc, je ne sais pas par cœur. Voilà, de pouvoir dire qu'effectivement, en Suisse, la propriété privée des gens est beaucoup plus mise en avant. Ça montre bien qu'effectivement, c'est plus important ceux qui peuvent acheter un maximum de logements et faire du fric avec, que simplement la pauvre petite personne qui a juste besoin d'avoir un coin pour pouvoir dormir tranquille et pas dormir dans les allées d'immeubles, dans un coin sombre, pour pas se faire trop remarquer.
Gérard, Bernard, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez pu constater ça également, un problème de hiérarchisation justement des notions dans cette constitution?
Oui, puis sachant que surtout ces hiérarchisations ne sont pas publiées. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des juristes, qui m'est arrivé sur ces sujets-là, ils vont dire « Ah oui, mais celle chose, elle passe avant telle autre ». C'est écrit où? Non, c'est pas écrit. C'est dans leur formation qu'ils ont cette information-là, qu'ils doivent respecter certains ordres, mais personne ne les connaît. C'est vraiment des choses, des habitudes qui ne sont pas, publiées. Les jurisprudences sont payantes, par exemple. J'ai découvert ça. Les jurisprudences au tribunal fédéral, il faut payer. Pour, y a quelques-unes qu'on peut trouver, mais les outils ne sont pas très bons. Pour aller sur leur site web, si on veut vraiment avoir les jurisprudences précises et tout, il faut payer.
Ok. Ça, c'est effectivement aussi problématique, je trouve.
Okay. Sans compter que les jurisprudences ont été faites à l'aide de paiements quand même assez importants.
Déjà en amont, oui.
En
coup,
amont, dans les procès en question. Ouais, ouais. Les procès qui ne vont pas plus loin sans appel parce que les gens n'ont pas l'argent, etc. Quoi.
Absolument. Mmh. Ouais, là aussi, c'est tout un vaste sujet. Je pense qu'on va arriver au terme de cet entretien pour aujourd'hui, mais je voulais encore savoir si, effectivement, il y a déjà des... Alors, Marie-Lou vient de donner une notion effectivement centrale, le logement, le droit au logement, comment on se loge toutes et tous, quel est le statut de ces personnes-là, hein, parce qu'on voit ici, on est en plein cœur des Paquis, on a des problèmes de gentrification aussi, où des personnes sont franchement écartées des appartements pour pouvoir les rénover ensuite, et puis on connaît les processus de gentrification. Vous, est-ce qu'il y a également, parce qu'on est à l'aune comme ça du... En fait, on est dedans, dans le 21e siècle, et on voit bien les choses qui nous marquent beaucoup, c'est le big data, c'est un petit peu... Certains disent le pétrole du 21e siècle, c'est l'information. Est-ce que ça, c'est quelque chose, ça, c'est un sujet également qui vous titille et qui serait bon peut-être d'insérer dans une constitution le rapport qu'on a à l'information, quel est le droit à l'information, quel est, définir une sphère privée inaliénable, intouchable, sanctuarisée?
Oui, totalement. Je veux dire, l'information, on voit dans la dernière votation sur Monnaie Pleine, l'accès pour monsieur tout le monde à l'information qu'on a envie de leur donner, il n'est pas évident. Hein. Ça, c'était un des points importants. Il y a un certain nombre d'autres choses que je sais pas, tu veux continuer sur l'information quelque chose ou bien?
Bon, moi je suis sensible parce que je suis dans le domaine de l'information, donc c'est de l'informatique aussi. Donc
oui.
C'est quelque chose auquel je suis très sensible. Et il faut voir aussi qu'on a des limites intellectuelles. Vous savez qu'on ne peut pas retenir 6 ou 7 mots à la suite. Si je vous dis 7 mots, vous ne pourrez pas retenir. Et la majorité, c'est même 6 ou 5. Donc en fait, on a besoin de passer du temps sur des choses comme ça. Mais est-ce qu'on a le temps de le passer puisqu'on doit passer notre temps à gagner de l'argent à côté? Donc il y a un vrai sujet aussi, c'est finalement, est-ce que le travail du citoyen qui doit étudier et prendre des décisions, si ça doit faire partie de son travail, ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse le faire. Et donc il faut que tout le monde y puisse y consacrer du temps et donc il faut des moyens pour ça.
Absolument.
Donc il y a aussi ces problèmes de ressources et il y a aussi les problèmes de limitation. Donc il faut des outils pour gérer des corpus comme ça. Moi je verrais très bien une sorte de schéma de ce que chacun veut. Enfin, j'ai une vision en trois dimensions assez à développer, donc je verrais très bien une sorte d'arbre de tous les chapitres. On puisse se balader à travers les chapitres. Chacun accrocher son étiquette de manière. On pourrait faire un arbre ici sous le préau. Accrocher les étiquettes, chacun puisse, comme ça on saurait qui est intéressé par quoi, qui est contre quoi, qui est pour, et avoir une vision en fait des idées en présence. Pour ça, ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire.
Absolument.
Ça veut dire aussi qu'au niveau des pouvoirs, il y aurait à réfléchir. Hein. On a actuellement un Conseil national, un Conseil des États. Je pense qu'on pourrait réfléchir à la possibilité de tirage au sort. Mm-hmm. Hein, c'est un élément qui permet d'éviter le fait que les gens soient amenés à prendre une position à travers des paiements un peu occultes. Hein. Mm-hmm. Et puis, le tirage au sort, ça peut se mettre en place avec, par exemple, un renouvellement constant du nombre de conseillers nationaux, par exemple, qui chaque année, ils seraient renouvelés pour un quart, de façon à ce que ça ne soit pas éternel, puis en même temps que, quand même, ceux qui ont construit leur travail puissent éventuellement le faire sur 3-4 ans.
Oui, puis qu'une transmission, absolument.
Donc il y a des idées dans la structure même du pouvoir qui permettraient d'avoir une nouvelle dynamique au niveau de cette confédération.
Bon, eh ben, franchement, moi, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour ce sujet. Mais c'est vrai qu'il éveille en tout cas des envies d'en parler et de réfléchir en commun. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Pourrait-on dire utopiste debout ? Et puis, tenez-vous au courant. Comment est-ce que justement on peut se tenir au courant des prochaines évolutions de ce projet ? Est-ce qu'il y a un moment, on fera de la radio à ce moment-là, il surgirait publiquement ?
Ouais, ouais.
Pour de vrai.
On n'en est pas encore à un site internet. Il y a une sorte de centralisation autour de François de Simmental.
C'est-à-dire qu'on se retrouvera dès que quelque chose surgira d'un peu plus, disons, visible pour les personnes qui nous écoutent.
Voilà. Qui a espéré pouvoir venir, puis finalement il avait trop de. Il prépare. Un événement dans la semaine, et puis on l'a représenté.
Mais oui, et puis on aura le temps de reparler. Très bien, je vous remercie beaucoup Bernard Dugas, Gérard Scheller. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous ici sur la place de Châteaubriand. Et puis on se tient au courant pour ces choses-là et d'autres choses également.
Et merci à vous. Merci.
C'est toujours agréable. Bon après-midi. Alors nous, sans transition, on va se faire une petite chanson pour aller chercher un peu d'eau fraîche. Mais nous allons parler, et ça tombe bien, Ivar, bienvenue Ivar Petersen et Marie-Lou. Alors Marie-Lou, toi tu es... je vais annoncer que vous êtes là. Marie-Lou, toi, tu es la personne qui, par ailleurs, propose les balades de squat en squat à Genève. Mais pas comme, mais tu vas te présenter juste après la petite musique plus concrètement. Et Ivar était un des occupants du squat du Prieuré, donc 1972, ici au Paquis, quasiment là où nous sommes. Exactement. Donc en fait, nous sommes actuellement en face de l'ancien squat du Prieuré, dont on dit qu'il fut le premier squat de Genève.
Alors, je vous propose.
Le premier squat autogéré de Genève. Je propose une petite pause musicale, une chanson, et puis on y va avec ça, d'accord ? Allez, et puis nous, eh bien, c'est les conditions du direct. Nous sommes là toute la semaine. Nous serons en direct les prochains jours pour de vrai. C'est Libre Radio. Et le site, c'est www.libradio.org. La page Facebook, c'est La Comète à la Banane. Petite pause, et on revient juste derrière.
Me subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo. Campo mío.